Chapitre 11. La journée du dimanche 23 fut très calme, mais Parthenope semblait distraite, préoccupée comme si des soupçons assez imprécis commençaient de poindre en elle. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très attentionnée à mon égard, de disposer des coussins dans les fauteuils où je m'asseyais. Mon épaule droite me faisait beaucoup souffrir et j'étais sans cesse à la recherche d'une position moins douloureuse. Je ne sais comment les choses auraient tourné si l'événement le plus inattendu, mais le plus naturel, n'était venu soudain occuper toutes les pensées. En fin d'après-midi, j'assistais dans la bibliothèque à une leçon d'histoire sainte dont Bentivoglio avait pris prétexte pour confirmer savamment à Parthenope la fable des hydrées rituelles quand ma femme dut s'enfuir en courant, prise de nausées. Elle revint 10 minutes plus tard, toute pâle mais soulagée, pour demander plaisamment aux jésuites par quel miracle les enfants d'Adam et Ève avaient pu perpétuer la race sans inceste. Si l'humanité avait si vite dégénéré, n'est-ce pas en raison de ces rapports coupables entre frères et sœurs? Agacé, Bentivoglio donna sa langue au chat et, prenant prétexte de l'indisposition de Parthenope, nous laissa seuls.
« Je n'ai pas eu mes affaires ce mois-ci, » me dit-elle. « Je dois attendre un bébé. Parrain, qui a déjà accouché maman, nous dira ce qu'il en est. »
Devant mon saisissement, Parthenope ajouta.
« Mais quelle drôle de tête vous faites! N'êtes-vous point content de cette perspective ?»
Je m'empressai d'afficher un bonheur sans mélange, mais en réalité, la nouvelle m'avait plongé dans le trouble le plus extrême. Il pouvait y avoir là, sans doute, une providentielle diversion susceptible de prévenir bien des soupçons dangereux. Mais selon que l'enfant prévu aurait ou non une queue, des questions insolubles ne manqueraient pas de se poser tôt ou tard. Mis soudain au pied du mur, je m'apercevais que j'avais pris ce problème à la légère. Dans la soirée, je priai discrètement Babington d'examiner Parthenope et j'assistais à cet examen tout brûlant de curiosité. Après l'interrogatoire d'usage, le docteur réserva son diagnostic et me dit à l'oreille.
« Je ne distingue jusqu'ici rien de déterminant. Un toucher vaginal pourrait m'éclairer. M'en donnez-vous la permission ? Avez-vous une préférence pour la méthode anglaise ou pour la méthode française ?»
Mes connaissances pratiques de gynécologie étaient encore très réduites. Je demandais des éclaircissements. En Angleterre, la femme se couchait sur le côté, les cuisses jointes et relevées, de sorte qu'une délicate introduction postérieure lui épargna la honte d'une confrontation. En France, on opérait de préférence par un toucher vaginal vertical, où la honte de la confrontation était atténuée par la présence du vêtement protecteur. J'ai aujourd'hui dans ma bibliothèque le traité pratique complet des maladies des femmes de Josanne, publié en 1870, où le toucher français est décrit en ces termes. On placera la femme debout, adossée à un meuble qui la soutienne, le corps légèrement incliné en avant. Le médecin, un genou en terre, se placera devant la malade. Il introduit alors la main droite sous les vêtements après avoir enduit préalablement le doigt indicateur d'un corps gras qui sert à en faciliter l'introduction. Il remonte le long de la cuisse droite et essaye d'arriver à la commissure postérieure de la vulve pour trouver l'orifice vaginal, en évitant l'anus en arrière ou le clitoris en avant, dont l'attouchement impressionne toujours la femme d'une manière pénible ou choquante. Ennuyé par ces complications ridicules, je préférais la méthode française qui me semblait moins éprouvante à l'égard d'une jeune mariée et Babington s'agenouilla bientôt devant Parthenope pour fourmiller sous ses jupes d'une main confuse. Enfin, son index douteux levé en signe de triomphe, il crut pouvoir confirmer l'état de grossesse. Laissant la future mère à sa joie, nous descendîmes au péristyle conversé. Malgré l'heure tardive et l'approche de Noël, le temps s'était étrangement radouci et une brise tiède soufflait du sud-est depuis quelques heures. Dans le clair-obscur du lieu, nous avions l'allure de deux fantômes tenant un conseil de famille. Avec une gaieté voulue et même forcée, Babington se félicitait de l'événement et il me confia
Si Lord Melrose et Lady Melrose n'avaient point de queue, engendrer une parthenope, ne doit-on pas s'attendre à plus forte raison que l'enfant qui s'annonce ait une queue rassurante? Une toute petite suffirait. Priez, priez pour qu'elle y soit, puisque vous êtes toujours croyant.
Cette rage de vouloir à tout prix une queue avait quelque chose d'excessif qui confinait à la manie. Devant mon instinctive réserve, Babington s'écria.
« Mais il le faut. Le décor est planté pour ça. Nous n'en sommes plus à une queue près. »«
Mais enfin, que ferais-je d'un enfant à queue ?»«
On le mariera pour fabriquer d'autres queues. »«
Vous vous moquez ?» Babington retrouva son calme et me prenant par le bras.
« Si nous n'étions pas intoxiqués par les prêtres, savez-vous que nous serions excusables de fonder pour les besoins de la cause une nouvelle morale, une nouvelle éducation, ou plutôt de ressusciter les vieilles coutumes égyptiennes ? Mariez vos fils avec vos filles pour être sûr de notre coup. »
Je me dégageais. L'incestueuse hypothèse du docteur rejoignait avec une apparence de sérieux l'innocente boutade de Parthenope, et il y avait de quoi être bouleversé. Sans tenir compte de mon indignation, Babington poursuivit.
Ne comprenez-vous point que la seule chance de salut pour Parthenope est que le décor cède peu à peu la place à un monde bien réel où les queues véritables feraient un jour la majorité? Et ne distinguez-vous pas quelle gloire éternelle serait la vôtre d'attacher le nom de Darwin à une si fantastique évolution? D'ailleurs, si l'on passe sur la haute antiquité, on trouve ici ou là la trace de queue humaine dans l'histoire moderne. Tenez, au XVIIe siècle encore, le grand William Hervey, dans le cinquième essai de ses Exercitations de Generation, atteste l'existence d'hommes à queue dans l'île de Bornéo et parle même d'une fille, étudiée par l'un de ses amis, dont la queue, pudiquement recourbée, cachait les parties génitales et le derrière. Mais en cherchant bien, il y a des queues partout. Elle ne demande qu'à se montrer.
Le docteur me reprit le bras qu'il ne lâchera plus et eut alors cette phrase effrayante.
Si Parthenope accouche par malheur d'un enfant sans queue, né d'un père qui aurait perdu la sienne par accident, que lui direz-vous? Imaginez un peu quelle affreuse surprise ce serait pour elle et pour toutes les réflexions qui en pourraient découler. L'idée jusque-là impensable d'une humanité sans queue ne s'imposerait-elle pas forcément à son esprit? Mais, mon cher Charles, un bébé sans queue et le voile se déchire.
Je me trouvais pris au piège, une queue de Damoclès suspendue par un fil au-dessus de ma tête. Si le fil cassait, c'était le début d'ennuis sans fin. Si le fil résistait, c'était la catastrophe. Il me souviendra toujours de ce Noël 1827. Parthenope jubilait. Les autres, sous des airs de fête, dissimulaient des angoisses variées. Sir Randolph et Babington souhaitaient passionnément une queue. Bentiviglio suppliait le ciel de lui accorder un derrière ordinaire. Maclaurin craignait pour sa situation. Je ne savais trop que souhaiter par intelligence, et Miss Tipps par stupidité, ce qui revenait hélas au même. Et les vœux du nouvel an 1828 furent affectés de la même désespérante ambiguïté. Nous faisions tous notre possible pour dissimuler nos tourments à Parthenope, qui se contraignait sans trop rechigner à une tranquillité bien éloignée de son tempérament. Plus d'équitation, plus de chasse, mais un tir au pigeon aménagé dans le parc où le gibier d'élevage à plumes vint remplacer le pigeon quand ces derniers volatiles se furent raréfiés au-delà du seuil critique. Le reste du temps, Parthenope faisait de longues promenades à pied ou parachevait son instruction en compagnie d'un Bentiviglio de plus en plus sombre. Sa maternelle béatitude semblait parfaite et tout soupçon fâcheux enfoui dans son esprit jusqu'à nouvel ordre. Un matin de la mi-février, après avoir écrit à Londres pour avertir que la grossesse de ma femme me retiendrait jusqu'à l'automne, je fis seller un cheval que je poussai jusqu'au champ de fouilles, trop loin pour qu'on s'y rendît en marchant. J'avais fait des progrès en équitation et j'y parvins sans vider un étrier. La zone critique avait été entourée d'une palissade dont la porte était gardée par une sentinelle sous les armes près de sa guérite aux couleurs d'Albion. À l'intérieur du camp, je trouvais un baraquement assez confortable où un caporal et trois hommes jouaient aux cartes en buvant. Ils avaient quitté leur habit rouge et paraissaient bien habitués au port réglementaire de la queue. Je les félicitais de leur tenue et de leur dévouement, mais je manquais d'éclater de rire à l'idée de la tête qu'aurait faite le duc de Wellington devant un pareil spectacle. Sur ma demande, on m'ouvrit un assez vaste dépôt où s'entassait du matériel militaire. Comme d'habitude, Maclaurin avait travaillé dans le dernier détail. Le caporal, un juif corfiote à la mine éveillée qui commandait à 4 vénitiens patibulaires, me raccompagna un bout de chemin, se plaignit de sa solitude, suggéra que Lord Melrose leur fit cadeau d'une femme jusqu'à la relève d'octobre. Je promis de plaider pour sa cause. Je me rappelle qu'en mars fut subrepticement ajouté à la bibliothèque un catalogue viennois où figurait, avec commentaire approprié, une hydrie rituelle comparable à celle découverte par Parthénope. Et en avril, nous reçûmes par hasard un traité de théologie française, imprimé à Tours, où l'on pouvait lire, entre autres, « En élevant l'homme au-dessus de l'humanité ordinaire, la sainteté n'est pas loin de le rendre insensible à tout ce qui n'est point l'unique et beau souci de Dieu et du prochain. Saint Bernard en extase but une fois de l'huile de lampe, croyant boire de l'eau. Et le sire de Joinville nous rapporte que le bon roi Saint-Louis, étant agenouillé en prière dans son oratoire, le petit chien de la Reine Blanche s'en vint lui mordiller la queue sans même qu'il s'en aperçût. La piété est comme une ivresse, comme cet alcool que l'on distribue généreusement aux blessés sur les champs de bataille avant que de les amputer d'un bras ou d'une jambe. Terrassé par le vin capiteux de la foi, le soldat de Dieu ne se sent plus. » Les réactions de Parthénope furent excellentes. Elle nous commenta le catalogue avec orgueil et elle me dit de son précepteur irlandais « À la fois saint et saoul, il avait effectivement tous les motifs de ne plus rien sentir. » Le printemps avait couvert tout Kalinaos de fleurs et Parthénope, qui avait renoncé depuis longtemps à porter culotte, s'arrondissait. Je l'accompagnais souvent à la promenade et je ne revois pas sans émotion ce ventre plein de mystères, cette démarche de plus en plus alanguie, cette silhouette alourdie et penchée, cette queue qu'elle ne surveillait plus et qui saillait sous la robe légère. Parfois, nous nous étendions sur l'herbe et Parthénope m'entretenait de ses espérances, dont la touchante banalité me mettait les larmes aux yeux. Crainte de troubler la grossesse, je m'étais jusqu'alors abstenu de ma femme, mais Babington m'encourageait à faire mon devoir avec précaution. Dans tout le feu de la jeunesse, je ne me fis guère prier. L'état avancé de la gestation nous conseillait la position à 4 pattes, que les latins chasseurs et observateurs avaient appelée « mors ferrarum », c'est-à-dire à la manière des bêtes sauvages. Et je constatai à cette occasion que la queue était une gêne réelle, que Parthénope l'a mis à droite ou à gauche, ou bien l'a tint dressée contre ma poitrine. Mais cette surprenante difficulté à vaincre avait quelque chose de suprêmement excitant, comme si je me fusse mesuré avec la racine d'une humanité disparue et pour moi ressuscitée. Parthénope, il est vrai, ne faisait qu'en rire. Le temps fuyait qui semblait long à ma femme, mais que nous eussions tant voulu retenir. L'été nous accabla bientôt de ses chaleurs et notre attente se fit fiévreuse. La délivrance était prévue pour fin août. Le soir du dimanche 29 juillet, alors que Parthénope et Miss Tips travaillaient à la layette dans le salon ovale, Sir Randolph, Babington, Maclaurin, Bentiviglio et moi-même éprouvâmes le besoin de tenir conseil et nous nous retirâmes dans le bureau du maître de maison. La naissance d'un enfant à queue ne soulevait aucune difficulté dans l'immédiat et la conversation tourna évidemment autour de l'hypothèse inverse qui avait de quoi faire frémir. Comme personne ne se sentait capable d'expliquer à Parthénope l'éventuelle anomalie d'un bébé sans queue, Lord Melrose, découragé, nous dit sur le ton de la tristesse la plus profonde.
« J'ai eu le temps d'y réfléchir et je ne distingue malheureusement qu'une solution. Si nous avons un enfant anormal, enfin, je m'entends, nous le réputerons mort-né avec sa queue et nous le ferons filer secrètement sur l'ombre, lui et sa nourrice.
solution dénaturée, solution odieuse, qui suppose un enterrement et une tombe factice sur laquelle ma fille irait pleurer. Je sais bien, messieurs, que cette perspective est insoutenable pour des sensibilités ordinaires, mais nous devons en l'occurrence nous hausser à l'extraordinaire et nous faire des âmes de Romains. Tout est préférable à des inquiétudes et des réflexions qui amèneraient Parthenope, quasi fatalement, à percer à jour tout notre théâtre, à démontrer toute notre machine. Ce jour-là, il n'y aura plus ici d'espoir pour personne.
Sir Randolph n'osait me regarder. Je protestais avec la dernière vivacité, mais d'une voix de plus en plus embarrassée et faiblissante. Mon opposition me chargeait d'une responsabilité littéralement insupportable. Je quêtais un soutien autour de moi et je ne rencontrais qu'un silence gêné. Babington, avec une certaine ardeur, finit par se ranger officiellement à l'avis de Lord Melrose. Maclaurin l'imita par intérêt bien compris. Quant à Bentiviglio, en bon jésuite, il saisit l'occasion de plaider pour le moindre mal. « Mais enfin, lui dis-je, si j'ai un enfant sans queue, je puis en avoir plusieurs. Combien de pseudo-mornés voulez-vous ?» Après une courte hésitation, Bentivoglio eut l'impudeur de me suggérer que l'enfant se présente avec ou sans queue. Ne serait-il pas plus sage de vous arrêter à l'unité? Imaginez un peu que les uns aient une queue et que les autres n'en aient point. N'y aurait-il pas là des complications à faire vaciller l'intelligence? Après un premier enfant réputé mort-né, vous auriez en tout cas quelques excuses à vous montrer précautionneux. Le cas est si exceptionnel que je pourrais peut-être vous obtenir une dispense de la sainteté. Je ricanai avec amertume et m'enfuis sans demander mon reste, la tête perdue. Comme l'avait prédit Maclaurin, le séjour sur Kalinaos mettait la santé mentale à dure épreuve. Une situation aberrante au départ ne peut qu'entraîner, de proche en proche, des surcroîts inouïs d'aberration. Les chaleurs d'août furent écrasantes. Sous un soleil qui faisait danser la basse atmosphère surchauffée, les arbres aux branches immobiles étaient remplis de cigales mâles, dont le craquettement mettait les nerfs à vif. Je ne vivais plus devant l'imminence d'un quelconque irréparable. Vers la mi-août, Parthenope fut prise d'une remarquable agitation. Elle passait la layette en revue, tapotait l'oreiller du berceau, faisait des carnages de volatiles, et son étrange besoin de dépenses physiques la poussait à des promenades plus longues que d'habitude, malgré nos conseils et nos remontrances. J'en avais du mal à la suivre, et il m'arrivait de la laisser partir seule après lui avoir fait promettre de ne pas trop s'éloigner. Le dimanche 18 août, un orage diluvien me réveilla en sursaut alors que je faisais la sieste. Il était 6 heures de l'après-midi. Le maître d'hôtel m'annonça que Parthenope était sortie se promener on ne sait où. Même si elle n'avait pas trouvé abri, la pluie tiède ne pouvait lui faire grand mal. Passé 7 heures, je commençais cependant de m'inquiéter et j'allais guetter son retour dans le hall qui donnait par le perron sur les jardins à l'italienne et sur le grand parc. Vers 7h30, Lord Melrose, Babington et Bentivoglio m'avaient rejoint et partagé mon inquiétude. Nous envisagions de courir à la recherche de Parthenope lorsque nous la vîmes enfin paraître, marchant au travers des dernières gouttes d'un pas élastique et assuré, comme si sa grossesse n'était plus qu'un souvenir. La silhouette se précisa et vint à nous l'image prodigieuse d'une Parthenope d'autant plus mince qu'elle était trempée. Elle portait quelque chose sur son bras qu'elle avait enveloppé dans un jupon sanglant et la chose poussait des vagissements aigus. Nous étions tous quatre tellement sidérés que la force nous faillit de faire un pas à sa rencontre. Au cours de mon fameux voyage autour du monde, j'ai vu des indiennes abandonner un instant la caravane pour accoucher derrière un buisson et la rejoindre en courant, l'enfant jeté sur le dos. Et ce que j'ai vu des indiennes d'Amérique se dit aussi des badouines nomades des régions subdésertiques. Mais à cette époque, une telle apparition donnait le sentiment qu'une animalité triomphante avait réduit mystérieusement à néant les privilèges les plus douloureux et les plus certains de la femme. Parthénops s'était délivrée elle-même sous une pluie battante, avec l'aisance d'une chatte, alors que ses compagnes de la haute société abordaient cette épreuve mourante de peur, les muscles crispés, victimes passives et résignées d'obscures malédictions bibliques. Ma femme gravit légèrement le perron, tandis que Bentiviglio se signait précipitamment. Elle était dans une colère noire qui dominait encore son inquiétude, et déposant sa charge à mes pieds, elle me lança en se relevant.
« Vous êtes un misérable. Vous n'avez pas perdu votre queue dans un accident de diligence, n'est-ce pas? Mais vous étiez né sans queue, et ma fille tient de vous. Qu'allons-nous devenir avec une enfant sans queue? La tromperie est si énorme que ce mariage doit être nul. »
Cela dit, elle courut vers l'escalier afin de regagner sa chambre. Nous étions changés en statues. Sir Randolph finit par murmurer.
« Grâce aux dieux, Parthenop a découvert sur le champ la simple explication qui était la plus conforme à son intérêt, celle qui nous avait échappé malgré nos soins. Tout n'est peut-être pas perdu. »
Je murmurai à mon tour. « Une telle explication me fait bien mauvaise mine. Comment me disculper ?» Babington intervint.
« Vous plaidez la bonne foi, et l'amour fera le reste. Vos parents en auront menti pour ménager l'image que vous devriez vous faire de votre personne. »
Je ramassai ma fille, qui parlait plus haut que nous, et le docteur se précipita un peu tard au secours de la tendre accouchée. L'enfant, né au grand air et toute baignée d'eau pure, était superbe, chiffonnée à souhait dans son linge rouge de fortune. Je la déposai entre les bras de Sir Randolph et montai rejoindre Parthenope, qui était en vive discussion avec son parrain, et marchait de long en large dans notre chambre, le verbe agressif, la foulée infatigable.
« Fichez-moi la paix, » disait-elle. « Vous n'êtes bon qu'à fourrer le doigt là où c'est une queue qu'il aurait fallu. Je n'ai besoin de personne. J'ai fait naturellement tout ce qui convenait. Le cordon ombilical est noué. »
« Et le délivre, » s'inquiéta Babington, « était-il bien complet ?
J'en suis d'autant plus sûr que je l'ai mangé. »
Babington éprouva un sursaut violent et me jeta un coup d'œil suffoqué.
« Aurais-je eu tort de le manger? Cela ne se fait pas. Si pourtant mes chiennes le mangent, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, non ?»
Le malheureux accoucheur bredouilla que les femmes du bas-peuple avaient certes coutume de manger leurs délivres, mais que les femmes de qualité plus délicates y avaient renoncé. Je songeais que Maclaurin allait devoir faire rédiger Dardard un traité où il serait accessoirement question de gastronomie populaire obstétricale, et je m'épongeais le front de mon mouchoir en proie à une manière de vertige. Nous nous enfoncions dans le mensonge comme dans les sables mouvants, menacés d'être étouffés avant même que d'avoir touché le fond. Parthenope m'apostropha tout un coup.
« Quant à vous, monsieur, monstre anatomique et monstre de duplicité, sortez. Je ne peux plus vous supporter, ne veux plus vous voir. Mais avant de reprendre la mer, faites-moi monter un bain qui me lavera de vos caresses infirmes. »
Babington vola à mon secours, se porta garant de mon honnêteté, et ses arguments, qui étaient ceux du cœur, qui respiraient la sincérité la plus profonde, portèrent. J'ai encore dans l'oreille ces phrases émouvantes. À défaut de raison ou de justice, soyez au moins accessible à la pitié, Parthenope. Nous avons été tous trompés, mais le plus à plaindre, c'est bien celui qui vous a le plus déçu. Voici un garçon franc et honnête qui vient d'apprendre que ses parents l'ont abusé sur sa naissance. Infortuné produit d'une hérédité capricieuse, il est venu au monde privé de queue, telles ces innocentes grenouilles qui ont oublié le têtard dont ils étaient issus. Vous lui apportez subitement une petite fille aussi démunie que lui, et vous voudriez lui ménager votre estime à l'instant que la terre manque sous ses pas. Mais vous allez l'achever, les réduire au dernier désespoir, et vous aurez son trépas sur la conscience. » Accablé de honte, chatouillé néanmoins d'un rire hystérique, je m'effondrai au creux d'une bergère gondole, la tête dans les mains. Parthenope, après une longue hésitation, vint à moi et me dit
« Jurez donc sur l'évangile que vos tristes parents vous avaient caché le secret de votre naissance, que vous étiez né incomplet, comme les nègres ou les grenouilles de parrain. Je vous jure, que mes parents ne m'ont jamais dit que j'étais né sans queue. L'aveu m'aurait frappé. Eh bien, je vous crois. »
Avec un soupçon de répugnance, Parthénope se pencha pour m'embrasser, puis elle ajouta en soupirant.
J'aurais dû me douter du coup, car vous n'avez pas la moindre cicatrice. J'ai été naïve, mais comment imaginer que le seul gentleman sans queue était pour moi? La chose est cependant claire à présent. Quel dommage irréparable. Enfin, le vin est tiré, il faut le boire. L'important est désormais de nous occuper au mieux de notre fille, et nous y aurons du mal, d'autant plus de mal qu'il n'y a pas de diligence à Kalinaos.
Un filet de sang coulait le long de la jambe de Parthénope sans qu'elle y prît garde et se mélangeait à l'eau qui dégoulinait de sa robe. Je la laissai aux soins du docteur pour commander le bain et alerter la nourrice qui patientait depuis le début du mois dans une chaumière du quartier des domestiques. Ces préoccupations subalternes trompaient mon ennui. Je trouvai ladite nourrice en compagnie de Maclaurin qui lui faisait déjà la leçon après l'avoir mise au courant. C'était une femme de Corinthe, maigre et sèche, recommandée toutefois pour l'abondance et la qualité de son lait. Elle me dit avoir abandonné à une voisine corinthienne son petit garçon de 3 mois et être arrivée avec une fille de 20 ans qui avait remplacé, chez nos 5 habits rouges, une éther du Pirée, déçue par des hommages excessifs. Je conserve un souvenir à la fois sordide et irréel, en tout cas fort déprimant, de la conversation qui se prolongea jusqu'à la nuit. Au fond, Maclaurin et cette nourrice dénaturée avaient le même goût de l'argent et ils se comprenaient tous les deux à merveille. Sous un ciel plein d'étoiles, Maclaurin et moi-même remontâmes à pas lents vers la villa illuminée. Mon compagnon était d'humeur chagrine, la tournure des événements ne lui plaisait guère.
« Vous voyez, me dit-il, que ces conseils de prudence n'étaient pas trop mauvais. Vous avez voulu épouser un phénomène, et à ce qu'on m'a raconté, vous voici infirme de naissance en attendant mieux. »
Je ne me retins pas de lui répliquer. « Vous êtes à Kalinaos pour faire fortune, et je vous en félicite. J'y suis pour protéger un être fascinant que j'aime de toutes mes forces. Inquiétez-vous donc, je vous prie, de Parthénope, et ne vous occupez pas de mon destin. Quoi qu'il arrive, je n'aurai rien à regretter. »«
Oh, jeunesse !» gémit Maclaurin. Vous avez des façons de protéger qui fichent le frisson. N'auriez-vous point la sensation de faire du sentiment au bord du gouffre ?
Entre la passion aveugle et la sagesse intéressée, il n'est que dialogue de sourds. Étendu près du bébé qui dormait dans son berceau, Parthénope achevait une lettre à mon père qu'elle me donna à lire et dont j'éprouvai les termes sans aucun mérite puisque la chose devait rester en souffrance. Cette lettre est le seul souvenir matériel que j'ai gardé jusqu'à ce jour de ma première femme, et j'en recopie les termes.
« Mon bien cher père, ce dimanche 19 août, dans l'après-midi, j'ai été prise de douleur lors d'une promenade solitaire et orageuse, traversant un bois de pins au sol tout feutré où pointaient déjà les premiers champignons. Fort incommodée, j'ai crevé du pouce et de l'index, dès que ce fut possible, la poche qui retenait les os et me suis bientôt délivré d'une ravissante petite fille que j'ai rapportée à la ville. Je dois, à la vérité, de préciser que notre Diane n'a point de queue comme les autres jeunes filles, mais après mûre réflexion, je ne saurais vous en faire greffe. En effet, Charles vous a informé bien tardivement de nos projets de mariage, la veille même de la cérémonie, si je ne me trompe. Le fait étant accompli, vous n'étiez pas moralement tenu à nous écrire autre chose que des bénédictions et des banalités dont je vous remercie encore. Prévenu à temps, vous eussiez à coup sûr informé Lord Melrose que votre fils était né sans queue et risquait par conséquent d'engendrer une progéniture anormale. C'est la naissance de Diane qui a sur le champ fait saisir à Charles comme à moi-même que la fiction de l'accident de diligence relevait du pieux mensonge anodin et même bénéfique tant qu'un mariage n'était pas en vue. Vous imaginez notre joie, mais aussi notre déception et notre inquiétude. Charles a supporté la révélation avec un courage étonnant et je m'efforce d'être digne de lui. Il est heureux que l'isolement de Kalinaos ouvre pour la petite Diane des perspectives d'éducation artificielle que nous ne pourrions trouver ailleurs, et les ravages de Bonaparte qui se prolongent risquent de nous retenir longtemps ici. Charles se joint à moi pour vous assurer de nos respects et de notre profonde affection à partager tout autour de vous. Mon père, affreusement éprouvé, donne l'exemple de la résignation. Il vous prie de croire à sa parfaite estime.
Je me retirai avec ce mot honnête et mesuré dont la réception eut foudroyé mes pauvres parents. Le sort de Diane devint vite pour Parthena une idée fixe de tous les instants. Quand le bébé criait la nuit et nous réveillait, pressé de revoir sa nourrice, ma femme m'entretenait déjà du mariage de l'enfant et de sa mystique descendance. J'avais du mal à m'y faire, mais la réaction était logique. Parthena était aussi choquée de la naissance de Diane que si Randolph l'avait été de la sienne, et, à bout d'imagination, elle versait des larmes amères sur des mains qui se tordaient de désespoir. Je ne savais que dire pour la consoler, et les autres prisonniers de la fiction établie n'étaient pas plus habiles. Durant les derniers jours du mois d'août, Parthena se renferma dans ses réflexions, et au dîner du samedi 1er septembre, elle nous dit:
nous avons une chance dans notre malheur. Kalinaos est une île où nous sommes entourés de domestiques dévoués. Les circonstances sont idéales pour éduquer Diane de telle manière qu'elle ne se rende jamais compte de l'affreuse disgrâce qui l'a frappée. Nous pourrions lui faire croire, par exemple, que les femmes n'ont pas de queue et il n'y faudrait point grande précaution. Il me suffirait de monter en Amazone, ainsi que le font d'ailleurs toutes les dames de la société. Quant à supprimer la queue des hommes, cela est plus difficile. Nous aurions des esclaves, comme autrefois, que l'opération serait vite menée. Mais quel est le domestique d'aujourd'hui qui renoncerait à sa queue par esprit de famille? Les beaux dévouements se font rares, et chez les gens bien nourris, l'argent même ne saurait toujours compenser la perte d'une queue. Nous devons abandonner tout espoir que Parrain exerce sa chirurgie en ce sens. Même si nous parvenions à rectifier l'anatomie domestique, resterait celle des maîtres. Avec sa soutane, le père Bentivoglio jouerait sur le velours. Monsieur McLaurin échangerait peut-être sa queue contre un château d'Irlande. Mais je serais cruel d'exiger un tel sacrifice de papa ou de Parrain, bien qu'à leur âge, ils ne fassent plus grand-chose de leur queue. Il y aurait la solution de déguiser tous les mâles en turc. Le plus sûr, le plus simple, le plus pratique, le moins dispensieux serait, je crois, d'enseigner à Diane que les hommes ont une queue au contraire des femmes. Et la fable aurait d'autant plus de crédit qu'elle aurait pour elle une incontestable symétrie. La queue qui équilibre si heureusement le sexe du gentleman est une sorte de luxe pour la lady que la Providence a gâtée.
Figés, nous retenions notre souffle.
Vous semblez surpris, mais que pourrions-nous faire de mieux? Comment préserver autrement la santé morale et mentale de notre chère petite fille? Imaginez son désespoir quand nous devrions lui apprendre qu'elle n'est pas faite comme tout le monde. Mais le point fort de ma suggestion, c'est le mariage. Si les hommes sont privés de queue comme les femmes, nous devons recruter des militaires mutilés ou des chasseurs maladroits. Si les hommes sont doués de queue, le cercle des prétendants s'élargit à tous les individus normaux disposés à épouser une fille sans queue, quitte à s'évader de Kalinaos de temps à autre pour se débaucher ou aller en pèlerinage. Et Lord Melrose a les moyens de donner une très grosse dot pour faire passer l'absence de queue. Nous serions loin des 40 000 livres dont Charles s'est contenté par modestie naturelle. Mais l'enjeu voudrait le sacrifice. Il est nécessaire de préparer dès à présent le terrain pour que les décors de notre charitable mise en scène soient poussés à la perfection, car toutes les queues féminines ont à disparaître de Kalinaos. Que d'œuvres d'art à passer au crible, à condamner ou à retoucher, sans parler des livres de la bibliothèque. Le livre offre d'ailleurs de grandes possibilités qu'il serait coupable de négliger. Nous ne devons pas nous borner à une facile censure. Diane lira des ouvrages composés pour elle seule, où les femmes auront le derrière nu. De même, pour être à l'abri de tout imprévu désastreux, il ne serait pas mauvais de nous offrir un jour des magazines de mode et un Times sur mesure, pourquoi pas. Les conditions de vie sont telles sur cet îlot que notre œuvre aura la vertu de durer pourvu que nous y consacrions tous nos soins à chaque instant. Nous ne pouvons nous flatter que l'horrible Bonaparte continue de battre la campagne quand Diane sera grande, mais un bon time s'y pourvoira, donnera à notre jeune fille sa ration de bataille imaginaire, qui la dissuaderont de voyager dans une Europe à feu et à sang. Et quand le corps sera attrapé un boulet dans les gencives, Maclaurin fera manœuvrer le roi de Rome sur la route de Moscou. Une telle famille est inépuisable. Quel bonheur que les circonstances nous aient imposé ce séjour à Kalinaus, où tout paraît providentiellement arrangé pour le succès d'une aussi merveilleuse entreprise. Ce serait à croire en Dieu si l'on avait l'impiété de douter.
Parthénope se tourna vers moi, posa sa main sur la mienne et ajouta
« Charles aura le choix entre l'honorable blessure de guerre ou une charmante queue postiche. Un petit ressort pourrait avoir gaillardement de bas en haut ou de gauche à droite. »
La tension de Sir Randolph était si forte qu'un verre de cristal se brisa tout d'un coup dans sa paume et le sang fit diversion. Notre assemblée de thérapeutes amateurs avait le sentiment de marcher sur une glace fort mince qui allait bientôt craquer comme verre, infligeant alors de mortelles blessures. Parthénope semblait à un doigt de la vérité.